À lundi.
Bon week-end, bye-bye.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Luc, la liberté est là. Salut, Luc.
Oui, bonjour, Geneviève.
Donc, t'es là pour nous parler de ce rassemblement pro-Trump devant le Capitole. La sécurité est, disons, imposante.
La sécurité est imposante, puis parfois, ben, il faut discuter de liberté d'expression. Et ben, pour protéger cette liberté d'expression, protéger le Capitole de ce qu'on va dire en exprimant sa liberté d'expression. Donc, on a érigé une clôture qui rappelle le triste souvenir de ce qui s'est passé le 6 janvier et dans les jours qui ont suivi après l'assaut sur le Capitole. Et on va avoir également, non seulement, donc, on se prépare, on a comme fortifié, si on veut, là, ou freiner l'accès des manifestants demain au Congrès. Donc, on veut protéger le bâtiment. Mais il y aura cette fois, en plus grand nombre, la police de Washington. Et à l'avance, cette fois-ci, on a demandé également à la garde nationale de fournir du personnel supplémentaire. Pour ceux qui se souviennent de l'assaut des manifestants le 6 janvier dernier, ça avait pris au-delà de 3 heures à la garde nationale à répondre à un appel à l'aide, là, du soutien de la part de la police de Washington. Donc, cette fois-ci, on l'a bel et bien confirmé. Donc, non seulement il y aura la police de Washington, une police qui sera sur des gardes, qui ne sera pas pris de court, parce que c'est un peu ce qu'on a dit la dernière fois, mais qui devrait avoir, dès le départ, l'appui de la garde nationale.
Tu t'arrêtes un peu, je m'excuse, je ne vais pas t'interrompre, mais comme on a été pris de court la dernière fois, là, je pense, est-ce qu'on n'avait pas réglé cette question-là, justement, que sachant qu'il y avait des autobus complets de manifestants qui convergeaient vers le Capitole, que justement, on avait pu le voir venir, cet événement-là?
Ben écoute, le 6 janvier, moi, j'ai toujours pas eu de réponse satisfaisante à mes interrogations. J'étais devant mon téléviseur, puis je regardais ça se dérouler en direct le 6 janvier, et j'ai toujours pas compris comment on a pu entrer aussi facilement, puis comment ça a pu prendre autant de temps. Donc, jusqu'à maintenant, La défense principale ou l'argumentaire principal à la fois de la police de Washington puis de la garde nationale, c'est on l'a pas vu venir. On était pris de court. Ça me semble bien mince quand vient le temps de défendre. Mine de rien, cette journée-là, si demain, il y a personne qui va siéger, on n'entend pas de vote ou de délibération à la Chambre des représentants et au Sénat, c'était le cas le 6 janvier. Puis on visait carrément des législateurs, dont Nancy Pelosi et quelques autres. Donc, demain, c'est autour de 13 heures pour ceux qui suivent ça un petit peu. Donc, on attend. C'est ce que les services de renseignement ont fourni comme information. On attend autour de 700 personnes et ces 700 personnes-là, que vont-elles faire demain? Elles demandent justice pour ceux qu'on a arrêtés le 6 janvier. Il y en a qui ont déjà eu leur procès, il y en a qui sont déjà derrière les barreaux, qui ont eu leur sentence. D'autres, autour de 200, qui attendent de passer devant un tribunal, mais qui sont détenus préventivement dans beaucoup de cas. Donc, ce qu'on veut faire demain, c'est aller revendiquer une justice et un traitement pour ceux qu'on appelle les prisonniers politique. Donc, on joue avec les mots assez généreusement ici. Donc, quand on parle de prisonniers politiques, habituellement, c'est contre les idées du régime, mais si des prisonniers politiques, ce sont des gens qui, dans certains cas, sont suspectés d'avoir attenté à la vie de législateurs ou d'avoir, en tout cas, d'être au moins entrés par effraction au Congrès, on a de drôles de prisonniers politiques dans ce cas-ci. Moi, ce que je surveille également demain, puisque nos auditeurs devraient surveiller, c'est comment les politiciens vont récupérer ça. M. Trump a donné son appui à ses partisans, puis a donné son appui aux manifestants qui ont été arrêtés le 6 janvier, mais il ne sera pas là demain. Donc, lui dit, moi, je pense que c'est un piège. Si c'est une grande réussite, on va m'accuser d'inciter à la rébellion. Si jamais il n'y a pas assez de monde puis que c'est un flop, on va dire finalement que je n'ai pas d'appui puis que je ne suis plus influent. Donc, il ne sera pas là demain. Tout comme il n'était pas là le 6 janvier, alors qu'il avait
dit... Il était là. Il était là dans l'esprit de bien des gens.
On l'a pointé du doigt, puis on a même poursuivi avec une procédure de destitution. Là, M. Trump, faut le rappeler, historiquement, c'est le seul président qui a été soumis à l'exercice 2 fois. Donc, il y a M. Trump, bien sûr, demain, qui est pas là, mais qui va être dans l'esprit de bien des gens. Et il y a des politiciens, des représentants, des élus qui se sont montrés favorables à ces manifestants-là, mais qui n'ont pas annoncé jusqu'à maintenant qu'ils seraient sur place. Il y a une limite entre tweeter quelque chose ou déclarer quelque chose et se présenter dans un endroit où ça pourrait dégénérer. Donc, jusqu'à maintenant, ils ont l'air d'être assez prudents. Puis le chef de la majorité des Républicains, M. McCarthy, à la Chambre des représentants, a dit « Moi, je ne m'attends pas à ce qu'aucun de mes collègues républicains se présente soit là. » Il faut noter aussi qu'il y a une contre-manifestation demain, donc de midi à 16h, un peu plus loin, quelques kilomètres. Donc, il y aura des gens qui vont manifester, mais dans le sens contraire, bien sûr, de ce que font ces manifestants-là.
Un truc vraiment intriguant, Luc, le Canada qui a appris, je pense, avec stupéfaction, avoir été laissé pour compte dans un pacte qui concerne la sécurité internationale, un pacte qui a été passé entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie. Ça concerne la Chine. Beaucoup de questions.
Écoute, c'est très gros comme dossier. Ça sort au travers d'une série d'autres informations, puis on sait qu'elle foisonne l'actualité américaine. On est rarement, voire jamais, à court de sujet. Ce que fait M. Biden, donc, c'est un peu forcer la main de l'Australie en disant « Nous allons vous vendre des sous-marins à propulsion nucléaire, sous-marins qu'on avait au préalable commandés auprès des Français. » Donc, déjà, sur la scène internationale, ce qu'on sent, un, c'est que M. Biden, dont les troupes ont quitté l'Afghanistan, puis qui s'éloigne un peu du Moyen-Orient. Il l'avait dit, je vais concentrer finalement mes efforts autour de la zone Asie-Pacifique. Ben, il pose un geste concret cette fois-là en se rapprochant une fois de plus de l'Australie. Par contre, ce qu'il fait, puis là ça nous rejoint aussi, dans un premier temps, les Français le boudent assez joyeusement, avec raison. Ils ont été, M. Biden puis M. Blinken, le secrétaire d'État, ont dit, on en a discuté avec les Français, pourtant les Français ont dit non, on n'a jamais été consultés. Et en passant, ça ressemble à quelque chose que M. Trump aurait pu nous faire. Ça, c'est moins bon pour l'image.
Oui, moi, je me suis posé la question à savoir est-ce que c'est parce que Justin Trudeau a une position plutôt molle par rapport à la Chine?
Ben voilà, là, quand on dit ça s'en vient ici, donc d'un côté, les Français sont pas contents. Il y a deux autres pays qui, normalement, travaillent de concert avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, l'Australie, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont adhéré à un pacte, si on veut, là, ou à une entente qui s'appelle le Five Eyes. C'est des échanges de renseignements. Donc, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont pas été consultés, du moins selon ce qu'on en sait, dans ce dossier-là. En Nouvelle-Zélande, Mme Ardern a dit, ben c'est normal, on n'était pas intéressé par ça, puis je vois pas pourquoi on nous aurait consultés. C'est déjà un peu étrange comme réponse.
Mais de ne pas être intéressé par ces enjeux de sécurité, je vois mal comment ça se peut.
Ben voilà. Et du côté de M. Trudeau, c'est un peu la même chose. Donc, est-ce que nos services de renseignement sont à ce point intégrés ou que la collaboration est suffisamment bonne? On le sait qu'il y a des échanges entre nos militaires puis entre nos services de renseignement. Est-ce qu'on dit que ça suffit? C'est pas impossible, mais c'est pas ce qu'on dit ouvertement. De l'autre côté, ce qui circule également comme rumeur ou comme information, c'est que peut-être que M. Trudeau aurait évité ce dossier-là pour ne pas se mettre la Chine à dos plus que c'est le cas présentement. Donc, on sait qu'il y a toujours ces deux fameux détenus que le Canada essaie de faire sortir de la Chine. Il y a le dossier Huawei qui est venu empoisonner également les relations entre le Canada et la Chine. Est-ce que M. Trudeau le fait pour jouer un jeu diplomatique, pour éviter de se mettre à dos, donc je le répète, la Chine? Ou encore, est-ce que c'est comme clair ou une entente tacite qu'on va en bénéficier par la bande parce qu'on est très près des États-Unis? Reste que la position du Canada, elle n'est pas très clair là-dedans. Le Canada n'est pas une puissance nucléaire, mais on parle de nucléaire quand on parle de ces sous-marins-là. Donc, ces sous-marins, je le répète, sont à propulsion nucléaire. Ce sont de véritables petites centrales nucléaires là, qu'on va faire naviguer, qu'on fournit donc à l'Australie. Puis, quand on parle de nucléaire, c'est rarement une bonne nouvelle sur la planète actuellement, en tout cas pas dans cette zone-là de la planète, parce qu'on veut éviter la prolifération du nucléaire, et même si on ne parle pas d'armes, mais de bateaux à propulsion nucléaire, reste qu'on se trouve à naviguer, c'est le cas de le dire, à la limite des traités de non-prolifération. Donc, M. Biden, c'est un sacré coup de dé. C'est audacieux ce qu'il vient de faire là, mais audacieux et risqué.
Ben oui, puis est-ce que c'est la preuve que le Canada continue sa longue descente vers les pays pic-pic? C'est ce que j'ai envie de dire.
Ben, tu vois, on l'est pas vraiment parce qu'on est toujours très lié aux États-Unis. Ouais. On le dit moins, puis surtout en campagne électorale, c'est pas quelque chose que M. Trudeau va mettre de l'avant. Il va jouer sur la bonne entente avec l'administration Biden. Mais assurément, là, à la fin, dans le dernier sprint de la campagne, comme c'est le cas, c'est un dossier qu'il aurait préféré ne pas voir aboutir.
Mais clairement.
J'imagine que M. Trudeau aurait préféré que ça sorte mardi ou mercredi prochain. Il sera peut-être battu ou encore à la tête d'un gouvernement minoritaire, mais l'élection se rejouer. Chose certaine, pour lui, ça tombe mal. C'est un bien mauvais synchronisme que d'avoir à gérer cette patate chaude.
Il va peut-être envoyer des petits textos à Joe Biden. What's up? Pourquoi?
Moi, j'aimerais bien voir les emojis. Là. J'ai l'imagination fertile, j'en choisirais quelques-uns.
Ça ne sera pas des aubergines, on dirait. Je pense que ça ne sera pas ça. Tu faisais référence à Huawei, Luc, puis ça m'a fait penser au documentaire La Brèche, l'affaire Huawei, faite par mon collègue au bureau d'enquête sur l'hégémonie de cette compagnie chinoise-là qui a installé des antennes un peu partout au Canada, des antennes de télécommunications qui sont utilisées par plusieurs grands distributeurs de réseaux cellulaires cancer et tout ça. Puis c'est fou, là, ce documentaire-là. On voit que la Chine place ses pions très longtemps à l'avance et peut-être pourrait se servir de ces antennes-là pour nous espionner plus tard. Écoutez ça en fin de semaine si vous avez rien à faire. Si vous avez envie de...
Très bonne suggestion.
Si vous avez envie de paranoïer un peu. Ben, il faut se laisser. Oui, mais allez écouter ça si vous allez paranoïer en masse. Luc Laliberté, merci.